proximité d'Aigle-Thon, qui est le camp d'Auchère, voilà, à Rosiers-d'Aigle-Thon. Ces travailleurs étrangers, on en fait quoi? Ben, on les fait travailler, comme le nom l'indique, on les fait travailler dans les forêts, souvent comme bûcherons, sur les barrages, hein, la Corrèze est en train de construire la plupart de ces grands barrages et ils ont très largement contribué, dans l'agriculture, etc. Donc les GTE, ces groupements de travailleurs étrangers, il y en a une vingtaine à peu près en Corrèze, sur à peu près tout le territoire. Il y en a à Messac, il y en a à Ussels, il y en a à Saint-Cyr-la-Loutre en Xaintrie, etc., etc. Et puis on sait qu'il y a également ceux qui ne sont plus aptes à travailler. Donc on ne va pas les libérer, on va les mettre dans des camps spéciaux qu'on appelle le SSE, Service Social des Étrangers. Et le Service Social des Étrangers, il est situé dans deux endroits. Il est situé essentiellement à Beaulieu et avec une annexe à Cornille, donc à Rabès, hein, voilà, si, pour ceux qui connaissent. Voilà. On a un chiffre pour ce SSE, hein, donc ce Service Social des Étrangers, c'est-à-dire les étrangers inaptes à travailler parce qu'ils sont soit trop vieux, soit malades, soit handicapés, etc. En juin 44, il y a 98 Espagnols et 97 Juifs. Voilà, hein, donc ils sont assez nombreux. Et là, je voulais évoquer aussi un parcours d'une personnalité qui a fait partie de ce SSE. C'est le cas de David Kirman, alias Jacques Schneiman. En fait, j'ai une dame qui m'a contacté l'année dernière, elle s'appelle Sarah Connet, c'est l'arrière-petite-fille de ce monsieur, on a retracé ensemble un peu, si vous voulez, son parcours, elle m'a donné des éléments, je vais en donner quelques-uns. Donc son arrière-grand-père, qui s'appelait David Kirman, était né en Pologne, donc à la fin du 19e siècle. Il est mort à Beaulieu en 1943. Il a été interné comme travailleur étranger, voilà, sous un faux nom. Il a donné un faux nom dès le départ, sans doute qu'il avait le pressentiment que ça pouvait être mauvais pour sa famille. Il avait en effet une femme et deux filles qui étaient dans la région parisienne. Bon, il a été interné dans plusieurs camps du sud de la France. Il a été à Rives-Altes, à Bram. Et puis quand il n'a plus pu travailler, on l'a envoyé à Beaulieu, donc au SSE de Beaulieu. Il arrive en 1943, je crois en janvier 43, si je me rappelle bien, à Beaulieu, où on sait qu'il travaille un peu comme cordonnier. Mais alors, je n'ai pas trouvé s'il était dans le camp ou s'il était chez un artisan. Voilà, en tout cas, le camp de Beaulieu, hein, c'était les baraquements que je vous avais mis là. Il y avait deux baraquements ce qui correspond à l'actuel lotissement de Beaulieu. Et là, malheureusement, à l'été 1943, il a appris la déportation d'une de ses filles. Et il n'a pas supporté, il s'est suicidé. Voilà, il s'est suicidé dans le camp. Il a été retrouvé pendu. Et c'est vraiment un suicide, hein, là, voilà. Et le lendemain, donc, il a été inhumé. Donc ça, c'est une carte postale. Alors, carte postale qu'il écrit à sa femme. Et ça, c'est son arrière-petite-fille qui me l'a donnée. Et vous voyez, alors, donc, il ne prend pas son vrai nom, évidemment. Hein, donc, c'est Schneiman Jacques qui écrit à Madame Kirman, qui est sa femme, en fait. Et c'est assez émouvant parce que dans les lettres, il lui dit « Oh, cher ami, comment allez-vous? Comment vont vos filles? Embrassez-les de ma part. » Il ne va pas rappeler que c'est le père, mais enfin, en gros, on voit bien l'affection qu'il peut y avoir pour ces gamines. Et voilà la lettre qui a été envoyé de Beaulieu, donc le 19 août 1943, par le directeur de ce camp, qui est un ancien capitaine de gendarmerie, qui écrit à Madame Kirman, alors Mademoiselle Kirman, pardon, qui est donc à Saint-Ouen, à côté de Paris, et il explique que Jacques Schneiman a été s'épandu dans sa cellule, qu'il avait un comportement exemplaire, et qu'il a été donc inhumé à Beaulieu, en présence du rabbin de Brive. Or, le rabbin de Brive, c'est un personnage dont je vais reparler, il s'appelait, c'était le rabbin Feuerwerker, qui a eu un rôle très important, notamment dans le sauvetage des Juifs en Corrèze, et également dans d'autres départements. Voilà, ça c'est un parcours particulier de personnes juives. Donc ils sont nombreux dans les GTE. On sait aussi que les Juifs sont nombreux pendant la guerre dans les villes. On a un chiffre là qui est fourni aussi par Nathalie Roussary. En juin 1941, on estime que la population de Brive se situe aux alentours de 29 000 habitants, auxquels il faut rajouter 8 000 réfugiés, ce qui est un chiffre évidemment très important. Et parmi ces 8 000 réfugiés, 1900 sont Juifs. Voilà. Donc pour la ville de Brive. Par contre, on n'a pas de chiffre, hein, on n'a pas l'équivalent pour Tulle et Ussels, donc vraisemblablement qu'il devait y avoir quand même un nombre assez important. On sait aussi qu'il y a d'importants groupes de Juifs qui sont dans des chefs-lieux de canton. C'est le cas à Beaulieu. À Beaulieu, moi j'ai estimé le nombre de Juifs à environ 200. Voilà. La liste officielle, donc celle qui émane du recensement obligatoire, fait état de 111 noms, mais en réalité, des Juifs abolis, il y en a quasiment dans toutes les maisons, quoi. Donc, on est sans doute aux alentours de 200. À Uzerche, à peu près le même chiffre. À Memac, à peu près le même chiffre. C'est pas un hasard, hein, parce que la plupart de ces Juifs, en fait, ils sont pas installés là où ils voulaient. Ils étaient assignés à résidence. Or, dans des chefs-lieux de canton, il y a des gendarmeries pour les surveiller. Et ils font l'objet d'un certain nombre de rapports, pas quotidien évidemment, mais de rapports assez réguliers des gendarmes. On sait enfin qu'il y en a dans de très nombreux villages corréziens. Au fur et à mesure que je fais mes conférences et qu'il y a des gens qui me disent « Mais oui, mais je sais, on savait que dans le village, il y avait telle personne. » Alors après, certains n'étaient pas spécialement identifiés comme juifs, c'était des réfugiés. On a su qu'après qu'ils étaient juifs, mais en réalité, il y en avait à peu près partout, hein, des juifs pendant la guerre en Corrèze. Quelques mots sur la vie quotidienne. J'ai envie de dire, là aussi, il y a un côté pile et un côté face. On est entre refuge et exclusion. Il y a une grande variété de situations en fonction du statut social de ces juifs, en fonction du moment où on est dans la guerre, etc. etc. Bon, quelques mots d'abord pour un côté pile. La Corrèze comme refuge. J'ai repris ici l'exemple de Beaulieu avec cette colonie d'enfants de Beaulieu. Alors là, j'ai la chance d'avoir pas mal de photos parce qu'elles m'ont été données par toutes ces enfants juifs et ces cheftaines qui ont rameuté leurs connaissances pour qu'on puisse avoir un fond photographique. Et on a donc des photos de leur vie quotidienne. Ben voilà, elles se sont installées dans la durée. La durée, ça ne veut pas dire la facilité, hein. Et on n'oublie pas que ces gamines, elles n'ont pas leurs parents pendant la guerre, hein. Les parents les ont confiés à ces EIF pour les sauver, hein, et pour les mettre à l'abri. La plupart n'ont jamais revu leurs parents, donc c'est pas une situation facile quand on a 8, 10, 12 ans de passer 4 ans sans ses parents et puis ensuite de jamais les retrouver, évidemment. Mais disons que la vie quotidienne s'installe dans la durée, donc là, on fait la corvée d'épluchage, on fait la lessive dans la cour de la maison, on mange voilà, dans la salle à manger du restaurant de biologie, on va se baigner dans la Dordogne au beau jour, on prend le bus pour aller à Brive, ça c'est les cheftaines qui de temps en temps se font une échappée à Brive, etc. Elles circulent, voilà. Donc on a une vie qui est au mieux de ce que ça pouvait être, et puis ces enfants sont scolarisés. Alors je vous ai mis ici un certain nombre de témoignages de ces enfants ou leurs cheftaines, donc Germaine Poliakoff, donc ma fameuse maquille, ma copine, voilà ce qu'elle dit, hein. Donc l'admirable Madame Guénin. Madame Guénin, c'était la directrice de l'école des filles de Beaulieu, ne faisait aucune différence entre nos enfants et les autres, et en a caché quelques-uns lorsque la zone dite libre devint occupée. Noémie Gordin, qui était la fille d'une des directrices des EIF, donc de la colonie d'enfants de Beaulieu, sévère mais juste, Madame Guénin s'était forcée de nous intégrer au pays, nous ne sentîmes ni rejet, ni antisémitisme à l'école. Et puis Aristide Pressman, notre fameux Asher Peres, savant physicien israélien, donc qui est revenu, qui a passé toute la guerre à Beaulieu, il est enfant, hein, il a entre 6 et 10 ans à la fin de la guerre. Ce furent les plus belles années de ma vie. Dans cette petite école, il y avait vraiment un groupe de professeurs. Madame Salès, Monsieur Lalit, Monsieur Fort, ça c'est tous les vélos. Oui, tous les vélos, quoi, les ont connus. Alors tout le monde savait que c'était des professeurs extraordinaires. Bon, qui n'hésitait pas à manier la torgnole, voilà, le pied au cul, etc. Voilà. Mais donc c'était des professeurs hors du commun et je leur dois reconnaissance toute ma vie. Voilà. J'ai mis également, je l'ai regroupé parce qu'on avait retrouvé ce personnage-là en 2006 à la même occasion, un autre témoignage de Paul Abraham. Alors Paul Abraham, il a un parcours un peu différent. Il n'est pas dans cette colonie juive. Paul Abraham, il est venu clandestinement. Il a passé clandestinement la ligne de démarcation avec sa famille à l'été 1942, et ils se sont retrouvés donc en Corrèze et assignés à résidence à l'hospice de Beaulieu. Mais en réalité, alors ça, j'ai pas su lui demander, mais malheureusement, je crois qu'il est décédé depuis. Lui, il a été scolarisé à Altillac, donc de l'autre côté du pont de Beaulieu. Et voilà ce qu'il dit sur notre professeur, donc Paul Abraham, qui était à l'école à Altillac. Le maître, Monsieur Moisy, j'ai l'impression qu'il va être sévère. Il ne faut pas se fier aux apparences, il est bien cet homme. Voilà. Donc là, on a des enfants qui, ma foi, ont vécu au mieux, entre guillemets, de ce que pouvait être leur situation cette période. Voilà. On a aussi, toujours dans ce côté pile, et donc dans le côté Corrèze, terre de refuge, la protection, carrément, d'un certain nombre de juifs qualifiés à l'époque de juifs intéressants. Bon, c'est qui ? C'est juifs intéressants. Il faut avoir deux conditions pour ça. Il faut qu'ils soient de nationalité française et il faut qu'ils aient une certaine notoriété. Alors, quelques exemples qu'on a pu retrouver. Il y a le cas de Jeanne Duharcourt, alors ce n'est pas la plus connue, hein. Jeanne Duharcourt, née Dreyfus, qui est juive, qui était une enseignante, qui a été, comme tous les enseignants juifs, exclue de l'éducation nationale dès le premier statut, c'est-à-dire en octobre 1940, et qui était la femme du proviseur du lycée de Tulle, voilà, qui s'appelait Émile Duharcourt, qui lui n'était pas juif. Simplement, ce personnage, il avait, dans les années 30, écrit pas mal d'ouvrages, notamment un ouvrage sur Jean-Jacques Rousseau, qui lui avait donné donc une certaine notoriété. Ce qui fait que, pendant la guerre, alors qu'on sait, le préfet sait qu'elle est juive, elle ne sera jamais inquiétée. Par exemple, lorsque la division Bremer, en avril 44, demande au préfet la liste des juifs de Tulle, eh bien, le préfet prend soin d'enlever le nom de Jeanne Duharcourt. Et elle a pu échapper à la déportation, à l'arrestation, et donc à la déportation comme ça. Parce que son mari était intéressant, d'une certaine manière, donc on la protège. Il y a des personnages plus connus. Deuxième cas, Emmanuelle Berle et la chanteuse Mireille, qui était son épouse, hein, qui s'appelait Mireille Artuc. Dans un premier temps, Emmanuelle Berle est proche de Pétain, puisqu'en juin 40, il a écrit un certain nombre de discours de Pétain. Il semblerait bien, notamment, que ce soit à lui qu'on doive la maxime « La terre, elle, ne ment pas ». Voilà. Puis ensuite, il s'en est détaché, et ils sont venus s'installer en Corrèze, à Argentat. Et en 1941, il décide d'acheter une maison à Argentat. Sauf que le statut des Juifs le leur interdit. Le notaire d'Argentat refuse de signer l'acte de vente puisqu'ils sont Juifs. Ils font intervenir leurs relations et en fait, le préfet Musso va faire pression sur le notaire et même le CGQJ. Alors le CGQJ qui vient d'être créé, c'est le commissariat général aux questions juives, vont faire pression pour que le notaire signe l'acte de propriété des Berle et Mireille. Voilà. Ils vont ensuite, Mireille notamment, rejoindra la résistance avant de faire la carrière qu'on connaît ensuite. Voilà. Le troisième cas, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, c'est le cas de Jean Hatzfeld. Donc, je vous ai dit, cet universitaire connu à l'époque, qui a été qui s'est retrouvé au moment de l'exode à Poissac dans sa maison de campagne, qui va y rester puisque en tant que juif, il ne peut plus repartir dans la région parisienne. Il va être arrêté dans sa maison en juillet 1944. Il est arrêté pour propagande gaulliste, voilà, parce qu'il avait écrit une lettre à l'ambassadeur des États-Unis. Voilà, et donc on l'arrête pour propagande gaulliste. Il va faire plusieurs mois de prison, mais il va être libéré grâce à l'action de Jérôme Carcopino. Alors Jérôme Carcopino, qui était secrétaire d'État à l'éducation du régime de Vichy et qui était un collègue également de Hatzfeld, qui a donc réussi à le faire libérer. Il revient donc chez lui à Poissac. Il est arrêté une nouvelle fois en janvier 1943, où là, on engage une procédure d'arianisation de sa maison, c'est-à-dire en gros, on va lui piquer sa maison, hein, ni plus ni moins. Et la procédure, là aussi, est stoppée, et il va être libéré en juillet 1943 par l'action du Comité général aux questions juives, sans aucun doute, là aussi, avec l'aide de Jérôme Carcopino. Voilà. En février 1944, il est toujours chez lui, mais là, il s'en va parce qu'il sent que la menace est beaucoup plus grave, donc il va se cacher bien plus loin. Voilà. Donc, globalement, on a quand même... Et puis, il y a le cas de Benoît Mandelbrot, que j'ai oublié. Benoît Mandelbrot, alors les Mandelbrot sont une famille qui vient, si je me rappelle bien, de Pologne également. Pologne ou République ou Tchécoslovaquie, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, ils ont un oncle qui est réputé, puisqu'il est professeur au Collège de France, voilà. Et donc, la famille Mandelbrot va venir s'installer pendant la guerre à Brive, et Benoît et son frère vont être scolarisés à Tulle, au lycée Edmond Perrier. Ils ne seront pas inquiétés jusqu'en 1943. Par contre, en 1943, ils vont passer en Suisse, parce que la situation devient un peu plus grave. Après la guerre, Benoît Mandelbrot a fait une carrière de mathématicien extrêmement connu au niveau mondial. Il est le père, l'inventeur des fractales. Ne me demandez pas, c'est un des trucs tout petits en maths, mais voilà. Bon, l'inventeur des fractales, tous les mathématiciens du monde apparemment connaissent ça, mais voilà. Donc, ces gens-là, ils ont dans leur famille une forme de notoriété, donc en gros, ils sont à peu près épargnés. Remarquez quand même qu'à partir de 43, quand ça devient dur, il faut qu'ils se cachent, parce que sinon, ils vont payer comme les autres, hein, voilà. Ils seront plus suffisamment protégés. Et puis 43, les Allemands sont présents également dans la région et eux, ils ne feront pas dans la dentelle et la notoriété, ce n'est pas leur souci. Bon, il y a ce côté refuge et, face, et de l'autre côté, il y a un côté que j'appelle côté face, c'est-à-dire l'exclusion, le contrôle et l'internement. D'abord, je rappelle, je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, il y a un cadre légal entre guillemets, hein, cadre légal mis en place par le régime de Vichy. Ce sont deux statuts successifs donc édicté par Vichy. Le premier est d'octobre 1940. C'est 3 et 4 octobre 1940, le statut des Juifs de Vichy. Je rappelle qu'on est 20 jours avant l'entrevue de Montoire. On ne peut pas dire que c'est la collaboration qui a obligé Vichy à faire le statut des Juifs. C'est un statut voulu par Vichy. Donc il y a un antisémitisme du régime de Vichy et un antisémitisme intrinsèque. On sait même, c'est Klarsfeld qui a fait ressurgir il y a quelques années un document qui est le projet de premier statut des Juifs et qui a été annoté par Pétain lui-même pour le durcir. Donc il y a un vrai antisémitisme français. Hein, on ne peut pas le nier aujourd'hui. Le deuxième statut des Juifs, il date de juin 1941. Et c'est ce statut-là, à la suite de ce statut qui est créé le CGQJ, Commissariat Général aux questions juives, dont le premier titulaire, si on peut dire, va être Xavier Vallat, et qui va bénéficier d'un relais extrêmement zélé à Limoges avec Joseph Antignac, que j'évoquais au début. Voilà. Ce deuxième statut donc, rend obligatoire le recensement des Juifs en zone sud, avec le tampon juif sur les papiers d'identité, et durcit leur situation. Je rappelle que dès le premier statut des Juifs, dès octobre 40, 3400 Juifs sont exclus de la fonction publique. Voilà, donc plus de 1000 enseignants, par exemple. Dans cette partie sur l'exclusion, le contrôle, etc., il y a le sujet de l'arianisation. Arianisation des biens juifs. Alors, il reste très mal connu en Corrèze. Il y a eu trop peu d'études qui ont été faites. Par exemple, on sait qu'en Haute-Vienne, il y a eu 200 spoliations d'entreprises juives. Voilà. Donc, on sait qu'il y a eu des biens de juifs confisqués à Brive et à Tulle, notamment à Brive, donc le commerce qui s'appelait les 100 000 bas, dirigé par la famille Béhara, qui a été arianisé, la mercerie Lang que j'évoquais tout à l'heure, la maison du meuble des Berlots également. À Tulle, on a la maison des bas de Simon Anoka. Souvent, ce sont des gens qui travaillaient dans la confection, le textile, etc. Hein, voilà. Et ils sont confiés à des administrateurs provisoires, mais il y a peu d'études qui ont été faites sur le devenir de ces biens juifs. Bon, ça reste encore sans doute un peu difficile, voilà, mais il faudra bien un jour s'attaquer à cette question-là en Corrèze. Voilà. Autre élément du côté négatif, la question de la propagande antisémite. On sait par exemple, je ne vais pas laisser le document bien longtemps parce qu'il ne me plaît guère, mais on sait par exemple que le 6 octobre 1941 a été projeté au cinéma à Brive ce film « Le Juif sus ». Voilà, qui est un film évidemment de propagande antisémite, avec une programmation qui était prévue pour durer une semaine à Brive et qui finalement va être retirée dès la fin de la première séance à l'initiative du commissaire de Brive. Il a demandé la programmation, alors je cite officiellement, à cause de l'état d'esprit inquiet et nerveux de la population. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la séance, il y a eu des applaudissements, mais il y a eu aussi des sifflets. Et donc, on sent bien qu'à Brive, on ne peut pas faire une propagande antisémite bien trop marquée. Voilà. Il n'en reste pas moins que les autorités ne vont pas se gêner pour accuser les Juifs tout un tas de maux. Quand je dis les autorités, ce sont les autorités locales, un certain nombre de maires, le préfet, les organes de censure, etc. etc. Alors, de quoi on les accuse, ces Juifs? On les accuse d'abord de problèmes de ravitaillement et de nourriture. Un exemple qui est suffisamment parlant à lui seul. Voilà. Un rapport du vice-président de la censure de Brive de 1941 qui dit la chose suivante. 3 Juifs sont arrivés à Aubazine et depuis, on ne trouve plus rien à manger. Plus rien à manger. Et oui, les Juifs mangent tout. Voilà. Et on est dans le cliché et le préjugé le plus total, vous avez bien compris. Mais c'est un élément qu'on retrouve assez fréquemment, ça. Le deuxième objet de critique et d'accusation, c'est la question du logement. Et là, par exemple, alors je ne vais pas dire le maire de Brive, mais le président de la délégation spéciale de Brive, vous savez que le maire de Brive a été révoqué, hein, Henri Chapelle, et il a été remplacé par Louis Mijignac, avocat bontain, droite conservatrice, voilà. Et à partir de 1941, il accuse à plusieurs reprises les Juifs de prendre les meilleurs logements de Brive. Voilà. Sous-entendu, les brivistes ne peuvent plus se loger correctement. Voilà. On retrouve la même chose en novembre 41. Le maire d'Uzerche se plaint auprès du préfet qu'il y a trop de Juifs à loger et voilà, qu'il ne peut plus. Bon. Ça va aller plus loin, puisque un certain nombre de familles vont être expulsées de Brive à la demande de maître Mijignac, ce qui va permettre de libérer des logements, évidemment. Et on les décide de les envoyer dans des chefs-lieux de canton où ils seront plus facilement surveillés. Exemple, en mars 1942, donc une vingtaine de familles de juifs étrangers, pas les juifs français, mais les juifs étrangers sont souvent expulsés de Brive, et ils sont envoyés en résidence surveillée, donc pour certains à Lassac, d'autres à Juillac, à Messac et à Lubersac. Un exemple de famille, le couple Marx, qui est un couple âgé, puisque le mari a 70 ans, la femme a 65 ans, donc sont expulsés de Brive et ils sont envoyés à Lubersac, donc ce sont des gens âgés, malvoyants, et ils vont être de 1942 jusqu'à 1944 très étroitement surveillés par le maire de Lubersac, qui fait des rapports hebdomadaires sur eux, sans aucune bienveillance. Sans aucune bienveillance. On les accuse de beaucoup bouger. Ils peuvent pas, ils voient rien, mais ils bougent beaucoup, soi-disant. Enfin, voilà. Donc là, il y a aussi une forme de malveillance hein, qui est réelle. Bon. Et puis, ça va plus loin avec ce fameux internement au château du Doubs. Bon. Quelques éléments. Pourquoi le château du Doubs? D'abord parce que c'est un lieu isolé. Donc, un lieu assez isolé. On voit bien, on est en plein dans des forêts. Donc, on est sur les hauteurs d'Altillac. On n'est pas en plein cœur d'Altillac. On est vraiment dans les contreforts de la Xaintrie. On est déjà en Xaintrie, en fait, dans cette partie-là. C'est une idée que l'on doit au préfet Musso, idée qu'il a créée en mai 1942. Et le château va fonctionner de l'été 1942 jusqu'à janvier 1944. Quel est le principe? Le principe, c'est de faire payer très cher des juifs supposés être riches. Bon, le prix de logement au château du Doubs est de 50 francs par jour minimum. Minimum, ça c'est pour être logé dans des chambres de 12. Pour avoir une chambre de 8, il faut payer 80. Hein, voilà. Donc le minimum, c'est 50 francs par jour par personne, ce qui est deux fois plus cher que le prix d'un hôtel minable. Voilà. Et en plus de ça, chaque juif qui entre au château du Doubs doit verser une caution de 10 000 francs. Ce qui est une somme gigantesque. Voilà, hein, c'est 200 jours de logement. Hein, voilà, hein, 200 jours de logement. Inutile de vous dire que la caution, ils ne l'ont jamais revue. Hein, elle est partie à Tulle, elle a été alimentée les caisses du préfet. Bon, à ce prix-là, il n'y a quasiment pas de volontaires. Il n'y a pas de juifs qui veulent y aller. Voilà, hein, donc, du coup, on va les envoyer d'office. Ce qui fait qu'on n'est pas dans un hôtel. On est bien dans un centre d'internement. On va les envoyer d'office. Et comme les juifs de la Corrèze ne suffisent pas pour remplir le château parce qu'il n'y en a pas assez qui sont suffisamment riches, et ben oui, les juifs ne sont pas tous riches. Voilà. Le préfet Musso multiplie les lettres auprès des préfets des autres départements en disant « Envoyez-moi des juifs riches. Allez chercher des juifs riches dans les camps de Rivesaltes, de Bram, etc. etc. » Voilà. Et c'est comme ça qu'on va peupler le château du Doubs avec des juifs que l'on force à partir des camps où on les avait mis. À l'arrivée, on les fait payer extrêmement cher et on les garde dans ce camp d'internement. Au maximum, sur la période d'un an et demi à peu près, ce sont 150 personnes qui ont été hébergées. Je vous rappelle, VSD disait plus d'un millier, hein, donc le chiffre, il est faux. Hein, c'est Nathalie Roussary a bien montré, on est au maximum à 150 personnes. Voilà. Leur liberté de circulation est restreinte, donc officiellement, ils n'ont pas le droit de sortir du périmètre du château. En réalité, ils sortent. Hein, ils viennent souvent à Beaulieu acheter à manger parce qu'on leur donne très peu à manger, évidemment, là-haut. Donc bon, voilà. Mais ça, c'est bien un centre d'internement où il y aura des rafles que je vais évoquer par la suite. Bien. Ça, c'est pour les autorités. Quelles sont les réactions de la population? Ben, là aussi, les réactions, elles sont diverses. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a un nombre important de juifs étrangers qui, pour certains, parlent très mal, voire ne parlent pas du tout le français. Donc, il y a forcément la barrière de la langue qui peut rendre un certain nombre de juifs étrangers suspects aux yeux des Corréziens. Et globalement, dans toute la période première partie, c'est-à-dire entre 1940 et 1942, il semblerait bien quand même que les Corréziens soient plutôt majoritairement agacés et un certain nombre de réactions un peu agressives, un peu, hein, ça, on ne va pas les lyncher, mais, et ça c'est visible dans un grand nombre de rapports du préfet, jusqu'au mois de juillet 1942, ça a été étudié par Gilbert Bobatti dans un article paru en 2013, où les plaintes se multiplient, alors on ne dit pas forcément contre les juifs, on dit contre les accapareurs, mais les accapareurs sont souvent assimilés aux juifs. Et puis en même temps, il y a des manifestations de soutien et de compassion vis-à-vis des juifs. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est parfois chez les mêmes personnes. Deux exemples. Premier exemple, le cas. Donc ce sont des personnes, des cas d'intercession qui ont été retrouvés dans des lettres envoyées au préfet ou au sous-préfet, de personnes qui vont intercéder pour un ami juif. Voilà. Premier cas, un avocat de Brive qui écrit donc au préfet pour soutenir, pour demander donc un soutien, enfin pour proposer un soutien à un de ses amis juifs, et qui dit moi qui n'ai jamais aimé les juifs. Deuxième cas, un ancien combattant, toujours de Brive, là aussi dans une lettre, qui veut intercéder pour un ami juif et qui dit loin de moi l'idée de défendre les juifs dans leur ensemble. Moi j'ai mon bon juif, mais tous les autres je m'en fiche, quoi. Hein, voilà. Et donc vous avez des réactions où finalement quand on connaît la personne, on peut l'aimer, mais quand il s'agit d'un groupe, là c'est le groupe et on est prêt à se dissocier complètement de lui. Voilà. Troisième période et troisième partie, la Corrèze. Vous avez encore un peu de temps, ça va ? Oui. Voilà. La Corrèze devient un piège. Mais il y aura aussi, pendant ce piège, un nombre important de sauvetages. Bien, évidemment, là, il faut évoquer les rafles. La première rafle qui a lieu en Corrèze, comme première rafle d'envergure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des arrestations avant, mais la première rafle d'envergure a lieu, donc, c'est la rafle du 26 août 1942. Je rappelle, on est un peu plus d'un mois après la grande rafle du Veldiv, hein, des 16 et 17 juillet, dans la zone nord. Bien, c'est la première rafle de zone sud, entièrement organisée par les autorités françaises. Les Allemands ne contrôlent la partie sud qu'en novembre 1942. Hein, donc là, c'est vraiment de la responsabilité des autorités françaises. Cette rafle, on le sait, elle a été préparée pendant plusieurs semaines, de manière extrêmement minutieuse et dans le plus grand secret, en prévoyant absolument tous les rouages administratifs, les rouages opérationnels, c'est-à-dire la police dans les villes, la gendarmerie dans les campagnes. Les questions de sécurité ont été évoquées pour pas que les juifs s'enfuient, pour pas qu'ils aient trop peur. Les questions de logistique, le transport, les moyens de transport prévus, pour éviter aussi la panique, les formes de résistance des juifs, etc., etc. Donc tout ça a été vraiment planifié à l'échelle de la zone sud. On ne parle pas de rafle, on parle entre guillemets de ramassage des juifs, c'est le terme officiel que l'on utilise. Il est prévu d'arrêter donc les adultes, mais aussi les enfants accompagnés de leurs parents. Voilà. Serge Klarsfeld a fait un décompte de cette première rafle pour ce qui est de la Corrèze. Donc il a évalué le nombre de juifs arrêtés dans toute la Corrèze à 102 personnes le 26 août 1942, dont un peu plus de la moitié sont des juifs qui étaient faciles à prendre puisqu'ils étaient dans les GTE, dans les groupements de travailleurs étrangers, notamment à Soudeil et à Auxerre. 23 arrêtés au château du Doubs, là aussi facile, ils étaient à portée de main, regroupés, etc. Les autres ayant été pris à Tulle, à Uzerche, et c'est à ce moment-là, par exemple, que 6 élèves juifs du lycée Cabanis vont être également arrêtés et déportés. Voilà. Tous ces juifs vont être rassemblés d'abord à Égletons. Pourquoi Égletons ? Mais parce qu'on est à côté du camp de Soudeil, et c'est au camp de Soudeil qu'on en a pris le plus. Hein, voilà, donc on a entre guillemets été à l'efficacité. Puis d'Égletons, ils vont être transférés à Nexon, donc à côté de Limoges. Et de Nexon, ils partiront à Drancy, et de Drancy, malheureusement, vers le camp d'Auschwitz. À chaque étape est effectué un tri de ces juifs, parce qu'on a prévu un certain nombre de cas d'exemption. Voilà. Ce qui. D'une certaine manière, peut être bien parce que ça va permettre à des gens d'échapper, mais en même temps, augmente l'arbitraire de celui qui trie. Voilà, qui peut être exempté, qui ne l'est pas. Parmi les cas d'exemption, par exemple, il y a le fait, entre guillemets, d'être intransportable. Intransportable, c'est quelqu'un qui est trop malade ou handicapé ou trop vieux, etc. Voilà, là, ça va être une exemption. Et du coup, par exemple, il y a un certain nombre de juifs qui ont été arrêtés et qui ont été relâchés. C'est le cas, par exemple, sur les 23 personnes qui ont été arrêtées au château du Doubs, 17 ont été relâchées. 6 vont être déportées. Est-ce que je l'ai mis ? Oui. Alors, on n'y voit pas bien, mais ça, c'est la liste qui est fournie par Guy Perlier dans son livre La Rafle, et où, notamment, on voit les raisons d'exemption. Notamment pour les, ça c'est les juifs qui ont été arrêtés à Altiac, donc au château du Doubs, et on voit que la plupart du temps, c'est intransportable qui est le motif du fait qu'on va relâcher la personne. Et quand on relâche une personne, on relâche toute la famille avec. Voilà. Donc inutile de vous dire qu'il y en a qui ont bien compris qu'il fallait être intransportable, hein, voilà, pour survivre, ni plus ni moins, en fait. Voilà. Bon, au total, cette rafle du 26 août va se traduire par la déportation de 458 juifs à partir de Nexon vers Drancy et ensuite vers Auschwitz. 458 qui partent donc le 29 août à Drancy Et à partir du 31 août, ils vont faire partie de ces convois, hein, c'est des convois de trains à bestiaux, ceux qu'on connaît, hein, voilà. C'est des convois de 1000 à peu près, plus ou moins, vers Auschwitz, et ils vont partir avec les convois numéro 26. Voilà. Et parmi ceux-là, il y en a 59 qui sont des juifs arrêtés en Corrèze. Voilà. Rajoutons à cela qu'une soixantaine d'autres juifs avaient été déjà arrêtés à partir du 18 août. Donc c'est un cas un peu particulier, avaient été arrêtés à partir du 18 août dans le camp d'Auchère, et eux, ils ont eu un autre parcours, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas été regroupés avec les autres, ils ont été envoyés à Clermont, puis de Clermont à Lyon, et puis de Lyon ensuite également à Drancy, et puis à Auschwitz, ils sont partis par les convois précédents, c'est-à-dire les convois 24 et 25, si je me rappelle bien, oui c'est ça. Donc ça veut dire que là, sur ces rafles d'août, on est à peu près à 120 juifs arrêtés en Corrèze qui ont été déportés à Auschwitz. Voilà. Et pourtant, ces chiffres sont considérés, je cite le préfet de région, pas satisfaisants. Les chiffres sont considérés comme pas satisfaisants. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un certain nombre qu'on pensait attraper et que l'on n'a pas attrapé. Exemple, on avait prévu d'arrêter un certain nombre d'encadrants, c'est-à-dire des cheftaines, des EIF de Beaulieu, voilà, les éclaireurs israéliens de France. Et quand les gendarmes arrivent à la colonie, il n'y a personne. Il n'y a personne. Pourquoi ? Eh bien parce que la colonie, dans son ensemble, s'est éparpillée dans ce qu'ils appelleront les camps volants. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été prévenus. Et on sait par qui, et ça on le sait grâce au cheftaine aujourd'hui qu'on a pu retrouver. Il y avait un gendarme à Beaulieu qui, à plusieurs reprises, les a prévenus. Évidemment, les gendarmes, eux, ils savaient qu'il allait y avoir des rafles. Ce gendarme, malheureusement, on n'a jamais retrouvé sa trace. Et, avec un ami, on a recherché pendant longtemps. Il s'appelait Amédée Duhaut. Voilà. Et Amédée Duhaut, à plusieurs reprises, il est allé à la colonie en disant « Attention, demain, après-demain, il y a des rafles. » Alors dans ces cas-là, les cheftaines, évidemment, elles ne vont pas faire peur aux gamines. Qu'est-ce qu'elles font ? Et elles disent « Bon, ben, on va faire un camp volant. » C'est-à-dire, en fait, on va aller à la campagne pendant quelques jours. On va aller s'éparpiller par petits groupes. Et là, c'est assez émouvant parce que vous avez un groupe donc avec la cheftaine qui s'appelait Sultane qui est prête à partir. Et là, c'est assez rigolo. Vous avez la tourte de pain qui va suivre. Voilà. Et quand le danger, en tout cas, pour ce moment-là, est passé, ben, on va revenir et puis jusqu'à la prochaine fois, si je puis dire. Mais cette fois-ci, ils n'en ont chopé aucun hein, des EIF de Beaulieu. Voilà. Par contre, comme le chiffre n'est pas satisfaisant, eh bien, tout l'automne, on va essayer d'arrêter des juifs par petits groupes, par-ci, par-là. Quelques exemples. En septembre, à Nonard, donc juste à côté de Beaulieu, une famille de trois va être arrêtée, ce sont les Delheim. En fait, la gamine, la petite Delheim, elle était dans la colonie des EIF, mais les parents ont réussi à la rejoindre et à la retrouver. Et ils ont sorti leur fille des EIF pour prendre une petite maison à Nonard avec elle. Malheureusement, quelques jours après, ils ont été arrêtés et conduits à Limoges, enfin à Nexon, par les gendarmes de Beaulieu. Et ils ont été déportés et massacrés à Auschwitz, malheureusement. Voilà, un autre exemple. En novembre de la même année, novembre 42, va être arrêté à Beaulieu, à la terrasse d'un café, un juif qui s'appelait Hans Corvin, qui s'était échappé du GTE de Messac. Voilà. Il a sans doute manqué de prudence et il s'est montré dans un café à Beaulieu. Il a été arrêté, il a été déporté également. Voilà. Ça, c'est pour la première grande rafle de août 42. On sait ensuite que plus on va avancer, plus la situation va être tendue. Dès 1943, la situation est de plus en plus tendue. C'est pas la période la mieux connue, mais elle commence à l'être un petit peu, notamment grâce aux travaux de David Marmonnier, là, qui a produit des choses vraiment très intéressantes et très documentées. On sait qu'il y a eu plusieurs rafles en 1943. Par exemple, la rafle du 23 février 1943, où on va regrouper de nouveau des juifs à Nexon. Mais de Nexon, à côté de Limoges, on ne va pas les envoyer à Drancy. On va les envoyer à Gurs, dans le sud. Et puis ensuite, on les enverra à Drancy. Ce qui veut dire qu'on rajoute en plus des transports qui sont complètement aberrants. Et évidemment, de l'inconfort, voilà, un manque d'humanité pour ces gens. Bien, cette rafle du 23 février, elle prévoit 50 arrestations en Corrèze. Sauf que, comme le premier jour, on est loin du compte, eh bien, le préfet régional donne l'ordre de continuer pendant plusieurs jours. Et à l'arrivée, on va arrêter non pas 50 juifs en Corrèze, mais 139. 139 vont être arrêtés, dont 40 au service social des étrangers de Beaulieu. Ça, c'est une chose que j'ai apprise de David Marmonnier dans son livre que je ne connaissais pas et qu'on ne connaît pas à Beaulieu, donc il va falloir faire quelque chose pour garder cette mémoire-là, parce qu'on a su garder la mémoire de l'aspect positif, mais les travailleurs étrangers arrêtés à Beaulieu, on ne le savait pas jusque-là. Voilà. Donc 139 qui vont être déportés en mars, et tous massacrés également à Auschwitz. Voilà. On sait également qu'au château du Doubs, il y a eu au moins deux rafles en 1943, mais les dates, les nombres d'arrestations sont encore assez imprécis. Et puis, il va y avoir évidemment, à partir de la fin de 1942, des arrestations directement par le SD, ce qu'on appelle plus fréquemment la Gestapo, c'est-à-dire par les Allemands eux-mêmes, puisqu'ils sont présents à partir du 11 novembre 1942 dans la zone sud. Quelques exemples aussi, donc ils vont arrêter la famille Meisser qui était à Tulle, la famille Berlot, une partie de la famille Berlot qui était cachée chez le sénateur Labrousse à Saint-Ferréol. En réalité, le SD recherchait le sénateur Labrousse qui n'y était pas, mais par contre, ses amis, les Berlot juifs, étaient là et plusieurs membres de la famille ont été arrêtés. Également, à Brive, il y avait une entreprise qui s'appelait Radio Sil qui était considérée depuis un moment, entre guillemets, par le régime de Vichy comme repère de juifs, où quatre ingénieurs vont être déportés en avril, cinq personnes seront arrêtées en novembre 1943 à Donznac, etc., etc. Voilà. Les déportations vont être, on va dire, facilitées par une autre mesure du régime de Vichy. En août 1943, le régime de Vichy annule la nationalité française qui avait été accordée aux Juifs après 1927. Ce qui veut dire que ça augmente d'autant le nombre de Juifs, entre guillemets, déportables, puisqu'ils ne sont plus français, mais ils deviennent apatrides. Voilà. Les spoliations s'accélèrent en même temps que les arrestations, évidemment. Et on en arrive au fameux drame, au pluriel, du printemps 1944, qui est évidemment la période la plus difficile de cette période. Bien. Avec la fameuse division Bremer, qui a été évoquée donc, à travers plusieurs livres. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, elle est présentée comme ça, comme une opération, entre guillemets, de nettoyage, qui est organisée à partir de la Dordogne, puis en Corrèze, et puis en Haute-Vienne, essentiellement les trois départements comme ça qui sont pris en écharpe, par une division allemande créée exprès. Elle porte le nom de son chef, le général Bremer, qui ensuite sera appelé à d'autres fonctions, et qui comporte 8000 hommes, et qui va pendant trois semaines, un mois, ratisser d'abord la Dordogne, puis la Corrèze, et puis la Haute-Vienne. En Corrèze, les dégâts se concentrent sur à peu près une semaine, de toute fin mars jusque la première semaine d'avril, ce que le préfet Trouillet va surnommer la semaine sanglante. Ça correspond à la semaine sainte, on est juste avant Pâques, et semaine sanglante en Corrèze, où d'une part il y a une traque massive contre des résistants, et d'autre part il y a des arrestations, des déportations et des fusillades de juifs également sur place. Alors, c'est pas pour être macabre, mais il faut quand même avoir quelques idées, donc j'ai pris quelques exemples concernant spécifiquement les juifs ici, puisque c'était notre sujet. Donc, dès le 31 mars, 5 juifs sont arrêtés à l'Arche, puisque la division arrive par l'ouest, dont 2 vont être fusillés sur place. Dans les jours suivants, 48 personnes vont être arrêtées à Brive, dont le personnel de l'UGIF, qui était l'Union Générale des Israélites de France, créé par un organisme créé à l'initiative de Vichy. Les jours suivants, on est le 4 avril, au nord de Trégnac, dans la petite ville, dans la petite commune, le village, de Lasselle, au sein de l'école. Donc 6 enfants de 6 à 14 ans vont être arrêtés également et déportés. 21 juifs vont être arrêtés à Uzerche, dont 2 seront fusillés sur place. 34 à Tulle, 18 à Bénat, 3 à Rosiers-d'Égletons, 4 à Tarnac, 2 seront fusillés à Trégnac, 12 seront déportés à Bugeat. Bugeat a installé une plaque à la mémoire de ces 12 déportés. Donc ce sont des personnes de 3 à 71 ans, de 3 ans à 71 ans, donc repris dans le livre de Jean-Marie Borzet que j'évoquais tout à l'heure, et une plaque qui date de 2004. Et en 2004, on n'écrit toujours pas que ce sont des juifs. Ce sont des victimes du nazisme, mais ce ne sont pas des juifs. Or, ils sont tous juifs. Ils sont tous juifs. On peut se poser la question quand même. Pourquoi en 2004, on ne dit pas ces gens-là ? Alors, j'ai eu des discussions dans d'autres conférences. On me disait, mais oui, mais parce qu'il ne faut pas non plus les individualiser. Mais là, la question, elle se pose de la manière suivante. Ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient juifs et pas pour autre chose. Donc, mettre une plaque en disant qu'ils ont été arrêtés parce que c'est des victimes, certes, c'est des victimes du nazisme, mais c'est des victimes juives du nazisme. S'ils n'étaient pas juifs, ils n'auraient vraisemblablement pas été arrêtés. Voilà. Et pourtant, il n'y a pas le, on ne spécifie pas cet élément-là. Bon, au total, dans cette semaine sanglante, ce sont au moins 190 juifs qui ont été déportés à partir de la Corrèze. 190 juifs pour une semaine, sur cette semaine-là, plus une vingtaine qui ont été fusillés dans différentes localités du département, en une semaine, du 31 mars jusqu'au 8 avril. Bon. Autre élément de ces drames du printemps 1944, la question du saillant de Boutzak qui a rebondi il y a quelques semaines, mais de manière un peu plus positive. Bon, de quoi s'agit-il ? Le 15 avril 1944, les Allemands font une prise d'otage d'une grande partie de la population du saillant de Boutzak. Ils recherchent des résistants. Bon, les gens sont parqués dans le château, etc. Bon, 5 personnes vont être déportées. Dont 4 meurent en déportation. Voilà. Donc on leur a fait une stèle avec les noms de ces 4 habitants du saillant qui ont été déportés. Bon. Sauf que le même jour avaient été arrêtés en plus 5 juifs au saillant. Et ça avait été totalement oublié. Ils ont été tous évidemment tués dans les camps d'extermination et jamais leur nom a été écrit sur la plaque. Il a fallu un travail d'à peu près 20 ans de Jean-Michel Vallade. 20 ans. Pour arriver à faire reconnaître ça. Le maire, madame, je crois, Paul Verel, s'appelle, il me semble. Hein. C'est ça non quelqu'un sait peut-être. Paul Verel, pardon. Le maire a, l'année dernière, accepté pour la première fois donc, de citer les noms de ces 5 juifs qui avaient été retrouvés par Jean-Michel Vallade comme déportés. Et cette année, donc, leur nom a été ajouté sur cette plaque. Donc, on va dire que l'oubli, d'une certaine manière, est réparé. Mais il a fallu un travail de longue haleine de Jean-Michel Vallade et sa ténacité pour arriver à faire reconnaître ça. Hein, voilà. Jusque-là, ça avait été complètement oublié. Autre drame du printemps 44, la rafle de Meymac. Bon. Le 14 avril 1944, il y a une embuscade organisée par les FTP, donc entre Meymac et Mossack, où 4 Allemands vont être tués. Réaction immédiate des Allemands, ils annoncent une prise d'otage. Bon. Cette prise d'otage, elle se fait sur 2 jours, 17 et 18 avril 1944. Ils vont arrêter 25 juifs à Égletton, une trentaine de juifs à Mossack, plus une centaine de Meymacois, parmi lesquels une soixantaine de juifs. Bon. Et là, le 19 avril, les otages français non-juifs de Meymac sont tous libérés. Quant aux juifs, ils sont tous déportés à partir de la gare de Meymac, et ils seront ensuite, ils feront partie des convois 72 et 73 de Drancy vers Auschwitz, pour une partie, et vers le camp de Kaunas pour une autre partie. Bon, cette affaire, elle laisse un certain nombre de zones d'ombre. Est-ce qu'il y aurait eu échange d'otages, voire marchandage ? C'est vous libérez les Français et les Juifs, ma foi, tant pis. On ne sait pas exactement. En tout cas, le préfet s'est rendu sur place pour discuter avec les Allemands. Il n'a pas dit de quoi il avait discuté. Autre fait un peu troublant, les archives de la gendarmerie d'Égletton, pour cette semaine-là, ont totalement disparu. Donc on n'a plus d'informations de ce côté-là. Bon, on sait quand même qu'il y a eu un certain nombre d'actes de sauvetage à cette occasion. Un gendarme, là aussi encore, le gendarme Aymar, qui a permis à des juifs de s'échapper. Normalement, quand vous... il raflait les juifs dans les maisons, et normalement les juifs marchent devant, et le gendarme est derrière avec son fusil. Là, Aymar leur disait, attendez, je passe devant. Vous êtes derrière moi, je ne vois pas ce qui se passe derrière. Bon, et donc ça a permis à des juifs de partir. Il y a d'autres personnes de Meymac qui ont sauvé des juifs, comme les époux Melon, par exemple, qui ont sauvé Ida Mussler. Ils ont été faits juste parmi les nations. Ou encore Marguerite Wagenfeld-Lemoine, qui a laissé déporter quelques membres de sa famille pour sauver des enfants qu'elle avait récupérés chez elle. Voilà. Bon, et qui a été faite juste parmi les nations également. Bon. Cette affaire, elle n'a pas ressurgi depuis très longtemps. Hein, elle fait l'objet d'un intérêt assez récent. Il y a une association qui a été créée en 2002 qui s'appelle AMDM, Association pour la mémoire des déportés de Meymac, dont le président est André Panzer, qui partage son temps entre Paris et Meymac. Il y a eu un livre publié en 2004 avec Paul et Mouni Estrade pour rappeler cet effet-là, cette rafle. Et il y a eu 3 plaques déposées à la gare. Alors, voici les 3 plaques qui ont été déposées à la gare. Donc il y en a une en haut à gauche qui a été déposée par l'AS. L'AS, c'est l'armée secrète. Bon, pourquoi l'AS de Haute-Corrèze a-t-elle possédé une plaque ? Bon, on peut dire, bon, par mémoire pour ces résistants qui avaient ces juifs qui ont été déportés. Ensuite, vous avez une plaque de la DMD, mais qui est assez peu précise, pas très très claire, honnêtement. Et puis vous avez la liste des Juifs, 59, si je ne me trompe pas, qui ont pu être identifiés. Voilà. Il y a un absent, ce sont les FTP. Pas de plaque des FTP. Alors que le point de départ, là aussi, hein, c'est pas à but polémique, ce sont le point de départ de cette rafle, c'est une embuscade des FTP. Et on a une plaque de l'AS, à la limite dont on peut se demander pourquoi, puisqu'ils n'étaient pas directement impliqués, et on n'a pas de plaque des FTP. Point d'interrogation. Voilà, point d'interrogation. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre qu'il y a des gens qui sont généreux aux entournures, hein, ni plus ni moins, et qu'on a les consciences un peu dérangées, quoi. Hein, voilà. Bon, on pourrait penser que 80 ans après, maintenant, il serait temps de dépasser ça, quoi. Et espérons que ça se fera. Voilà. Bon, le printemps 44, c'est vraiment le moment le plus dur, où il y a le plus de déportations et aussi des fusillades, etc. Bon, il y a quand même un certain nombre de sauvetages. Ça va nous redonner un peu de baume au cœur, si on veut le dire. On sait qu'à partir de la rafle du 26 août 44, on observe assez rapidement quand même un basculement de la population corrézienne, cette fois-ci vers la protection des Juifs. Autant on pouvait leur reprocher d'être des accapareurs, machin, etc., etc., autant quand on les arrête et qu'on... On ne sait pas où ils vont, hein. Il ne faut pas croire que tout le monde sait, hein, évidemment pas, mais autant où on les arrête et puis on les, de manière assez brusque, et on les emmène, là, la population corrézienne commence à désapprouver. Bien. Il y a quelques précurseurs isolés de ces désapprobations, comme Edmond Michelet. On sait que pendant toute la durée de la guerre, donc déjà avant, il a permis à des antinazis allemands et autrichiens, qu'ils soient catholiques ou juifs d'ailleurs, de quitter la France. Voilà. On sait également François Labrousse qui a hébergé les Berlots, je vous l'ai dit. On sait que Michelet et Labrousse, dès août 1942, ils font des quêtes à Brive pour les familles dont certains membres ont été déportés, pour les secourir et les aider, etc. etc. Mais assez rapidement ensuite, il va y avoir d'autres personnes qui vont agir, les institutions religieuses. Alors, on sait par exemple qu'à Saint-Martin, à Brive, donc en septembre 1942, l'abbé Lémarie fait, pendant la messe, un sermon dans lequel il demande de prier pour les familles juives, entre guillemets, brutalement dispersées. Voilà. C'est un début, hein, c'est pas non plus. Mais enfin, c'est un début. La lettre de Mgr Saliège n'a pas été lue en Corrèze, par contre. Hein, voilà, celle qui dénonce très clairement les déportations. Par contre, on sait aussi, et ça a été montré dans une thèse de 2012 de Sylvie Bernet, que l'évêque Chassaigne, donc l'évêque de Tulle, Aimable Chassaigne, pourtant pétainiste bontain, il faut le dire quand même, hein, voilà, même si certains tendent à minimiser ça, mais en fait, c'était quand même un pétainiste bontain, il ordonne à partir de septembre 42 l'ouverture des couvents pour protéger les Juifs. Voilà. Donc on sait qu'un certain nombre d'institutions religieuses vont en héberger et en cacher. Je vous le disais tout à l'heure, le couvent d'Aubazine, hein, voilà, puisque Michelet va convoyer une douzaine de fillettes et puis deux adultes à Aubazine. On sait également qu'à Argentat, au pensionnat catholique, la religieuse Danielle Hague va accueillir plusieurs enfants et les cacher. Gilbert Beaubati a fait un article là-dessus, hein, disant aussi qu'il y avait eu des institutions. Donc évidemment, à Brive, Saint-Antoine, par exemple, Égletton, à Bord, à Ussel, etc., etc. Bon. Il y a également des fonctionnaires qui vont œuvrer dans la protection des Juifs, soit en groupe, soit de manière individuelle. On a des groupes d'enseignants qui sont assez actifs. Alors, il y a le cas de Beaulieu, hein, où plusieurs enseignants ont permis à des Juifs d'être cachés quand ils s'étaient menacés. On sait qu'à Cabanis, également, il y a des groupes d'enseignants qui ont œuvré. Et puis on a aussi des enseignants assez isolés. Je cite le cas de Jeannette Meunier. Alors Jeannette Meunier, c'était une institutrice à Bassignac-le-Bas, en pleine campagne, mais elle a caché toute une famille jusqu'à la fin de la guerre. Voilà. On a également d'autres fonctionnaires, tels que par exemple à Tulle, Jules Laffut. Jules Laffut, il est trésorier payeur général, donc il travaille à la préfecture. Il a sauvé plusieurs familles. Il est devenu maire de Tulle en 1944. On a également un certain nombre de gendarmes. J'ai évoqué tout à l'heure le gendarme Aymar de Meymac, ou encore le gendarme du Haut à Beaulieu, par exemple. Et puis, vous avez beaucoup de gens modestes et de toutes catégories qui, par conviction, ou alors par simple conviction religieuse ou politique, ou par simple humanité, vont décider d'intervenir. Des paysans, des artisans, des ouvriers, des commerçants, des gens de différents courants, des catholiques, des francs-maçons, des communistes, etc., etc. Bon. On a également des organisations juives. Je ne sais plus si j'avais mis un document là ou pas. Oui, là, c'était Edmond Michelet, le sénateur Labrousse. Bon, ça, c'est plus pour mémoire. Qu'est-ce que j'ai bien vrai. Oui, des organisations juives qui ont œuvré. J'évoque ici le cas du rabbin, donc David Feuerwerker, qui est mieux connu depuis un article de 2002 de Catherine Poujol dans la revue Archives juives. Personnage qui a été très actif en Corrèze et même dans d'autres départements. À un moment donné, on le retrouve en Haute-Vienne, ailleurs, on le trouve parfois dans le Lot, en Creuse, etc. etc. Il est en lien avec Michelet et le mouvement Combat. Il a trouvé quantité de faux papiers. Il a convoyé des gens vers la Suisse notamment. Il a trouvé des caches pour pas mal de familles juives, jusqu'à ce qu'il soit lui-même sauvé de justesse d'une arrestation par un groupe de résistance qui s'appelle Témoignage Chrétien. Donc là, on a une solidarité, on va dire, interreligieuse, œcuménique d'une certaine manière. Et après la guerre, il est parti de France, il est allé s'installer à Montréal, il est jusqu'à sa mort en 1980. Voilà. On pourrait citer le cas de Rose Gluck-Warfram, qui a été évoqué, après avoir été longtemps oublié, par David Marmonnier dans un article de Fidélité en 2018. Rose Gluck est la belle-sœur du rabbin Feuerwerker. Elle est à Brive également pendant la guerre. Elle est proche de Michelet, qu'elle aide dans ses actions. Elle a été arrêtée en avril 1944 avec le personnel de l'UGIF, donc à Brive. Elle a été déportée à Auschwitz. Et elle a vraisemblablement dû sa survie à deux éléments. D'abord parce qu'elle parlait très bien l'allemand. Et d'autre part parce que sa sœur, donc la femme du rabbin, juste avant qu'elle parte en train de Brive, lui a porté un costume d'infirmière, ce qui a sans doute permis de la sauver. Elle est décédée en 2016 à l'âge de 100 ans. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Quoi. Elle a pu avoir une vie après. On a également, dans ces organisations juives, une organisation qui s'appelle la Sixième. Ça, c'est une organisation de résistants juifs qui émane des EIF, donc des éclaireurs israélites de France, et qui va notamment, à partir de 1943, parce que là, ça devient trop dangereux de les laisser tous ensemble, éparpiller et cacher les enfants juifs de Beaulieu. Voilà. Alors certains vont être convoyés en Suisse, notamment avec une Belloquoise qui était, j'en reparlerai après, Adrienne Laquies, qui était la propriétaire de la maison où ils ont été hébergés, qui a pris sa voiture et qui a amené plusieurs fois des enfants juifs à la frontière suisse. Et d'autres vont être éparpillés à différents endroits. Et puis on a également un certain nombre de juifs qui se sont engagés dans la résistance elle-même, aussi bien du côté de la S que du côté des FTP. Je cite quelques exemples. Un des plus connus, c'est Raymond Farreau. Raymond Farreau, qui avait un poste important, il était juif, mais il était chef régional de l'armée secrète. Il a été arrêté plusieurs fois, évadé, etc., jusqu'à sa dernière arrestation, donc dans la rue qui porte son nom aujourd'hui à Brive, pas très loin d'ici, arrêté en mars 1944, et il sera exécuté à la prison de Tulle en avril 1944, après torture. On lui avait notamment coupé les tendons d'Achille pour pas qu'il s'échappe de nouveau. Voilà. Y a le cas également d'un personnage dont j'espère on reparlera d'ici quelques mois, qui s'appelait Éric Justitz. Alors il y a une plaque à Beaulieu sur le pont de Beaulieu qui dit que Éric Justitz est mort le jour du passage de la Das Reich. En fait, donc il y a un monsieur qui est à Paris et qui vient souvent en Corée, qui s'appelle Laurent Chassin, qui travaille pas mal dans le milieu de la Seconde Guerre mondiale, qui cherche à faire ressurgir la mémoire de personnages oubliés, qui est en train de reprendre le dossier, et donc il a bien avancé, donc on va pouvoir faire, j'espère, en quelques mois quelque chose. C'était un juif tchèque qui s'est réfugié dans la région d'Argenta et qui a rejoint l'AS de Basse-Corrèze, donc à Kams, au tout début juin, 1er juin 1944. Et le 9 juin 1944, lorsque la Das Reich passe à Beaulieu, avec quelques autres, un détachement de juifs tchèques, il est sur le pont de Beaulieu avec une mitraillette et derrière quelques tas de sable. Et évidemment, il y a un canon qui l'a emporté. Et donc, il est mort. Et donc, le parcours va être mieux connu d'ici quelques temps. Voilà, ça fait partie de ces personnages. Voilà. Tout dernier point, je vais vous m'arrêter là ensuite. Nous avons en Corrèze 56 justes parmi les nations. Donc j'ai essayé d'établir les différentes années où on leur a attribué cette distinction. En gros, on peut dire qu'il y a eu trois vagues depuis une trentaine d'années. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la première, c'est la fin des années 80. Avant, il n'y en avait pas en Corrèze, pas un seul juste avant la fin des années 80. Donc il y a une première vague qui concerne une trentaine de personnes qui ont obtenu le titre de juste, en gros, de la fin des années 80 à la fin des années 90. Puis ensuite, on a une deuxième période assez marquée de 2004 à 2009, où on a une quinzaine de personnes. Et puis la dernière période, c'est 2012-2016, une douzaine de personnes qui ont été faites justes. Il n'y en a pas eu en 2017 et 2018. La dernière cérémonie, il y a toujours un décalage entre le moment où on donne le titre et la cérémonie, il y a un an de décalage. La dernière cérémonie a eu lieu à Nespoul en 2017 au bénéfice de la famille Serre. Je vais en reparler. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour la Corrèze ? Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des justes en Corrèze. Bon, on a, quand on regarde le nombre de justes corréziens par rapport à la population de l'époque, de la guerre, on a en Corrèze un juste pour 4700 habitants, alors qu'à l'échelle nationale, à l'échelle de la France, c'est un juste pour 10 000 habitants. Voilà, donc on a deux fois et demi plus de justes en Corrèze. Ce qui veut bien dire que la Corrèze a été quand même une terre de cache, de sauvetage et de refuge pour les Juifs. Ce sont 32 femmes et 24 hommes, soit des personnes qui ont été décorées de manière isolée, c'est-à-dire une seule personne, mais souvent sont des couples. Alors couple, parfois atypique, ça peut être le mari et la femme, mais ça peut être aussi le père et la fille, ou la mère et le fils, etc., selon les circonstances. Quelques exemples simplement de ces justes. Le cas, donc, René et Marie Beaumont. René et Marie Beaumont étaient des époux qui habitaient à Tulle et qui ont caché une famille entière, la famille Selemensky, 4 personnes, donc les parents et les 2 enfants, dans la cheminée du grenier de la maison. Voilà. Alors, heureusement, on est au mois de juin 1944. Voilà. Le monsieur était maçon, donc il a défait la cheminée. Voilà. Donc, ils les ont cachés. Ils sont restés 2 jours dans la cheminée. On ne peut pas rester bien plus longtemps. Et puis après, ils les ont amenés à Saillac, dans une ferme, etc. Et cette famille a été sauvée. Le deuxième cas, donc c'est en plus une photo que je trouve magnifique, hein, c'est le cas d'Adrienne Lachiese, donc commerçante à Beaulieu. Elle était hôtelière et elle avait cette pension de famille. Et elle a convoyé plusieurs enfants juifs, elle-même jusqu'en Suisse. C'est une dame que j'ai connue. Évidemment, quand je l'ai connue, elle était déjà vieille dame. Jamais, 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 jamais je n'ai entendu parler de cette histoire-là. On n'en a jamais entendu parler. Voilà, elle a été faite juste en 1998, elle était encore vivante, ça s'est passé à Paris, mais on n'en a jamais entendu parler à Beaulieu. Rien à Beaulieu là-dessus. Voilà, donc c'est fou comment la mémoire avait pu être complètement laissée de côté. Voilà. Et puis ensuite, donc les derniers qui ont reçu le titre de juste, évidemment à titre posthume, hein, c'est leurs enfants et leurs petits-enfants qui l'ont reçu, c'est la famille Serre. Donc là, on a l'exemple d'un couple mère-fils. Donc c'était des cultivateurs, des paysans de Nespoul qui ont hébergé entre 1942 et 1944 deux personnes, Jacquette et Tina Adler, dans leur ferme à Nespoul, voilà, dans le grenier de la ferme. On a plein d'autres exemples, je prends un autre exemple au hasard. Maria et René Fromentin, donc aussi mari et femme, de Brive. Le monsieur était employé à la SNCF et ils avaient dans leur rue une famille juive qui s'appelait les Kogan et qui était activement recherchée par les gendarmes. En avril 1944, ils les ont cachés chez eux pendant plusieurs jours, en sachant qu'ils prenaient évidemment un risque énorme. Voilà, donc quantité de gens qui sont des gens ordinaires en fait, ni plus ni moins. Voilà. Voilà, alors pour terminer, un bilan et je m'arrête là, j'aurais tenu un peu de presque 2 heures, je suis désolé d'avoir été bien long. Bon, que dire ? Tiens, je vous mets cette photo parce qu'elle est, je l'aime bien et puis elle donne un peu d'espoir. Voilà, c'est une photo qui a été prise à Beaulieu. Alors, sans doute en 1940, voilà, hein, plutôt vers le début, elle a été prise de du restaurant Le Vieux Logis, là, donc de la maison Lachiese. On ne sait pas qui l'a prise, mais voilà. Et vous avez donc les enfants. Alors là, vous avez la statue de la Vierge, voilà. Et vous avez ces enfants juives, pour la plupart enfants féminines, même si on voit quand même quelques shorts et quelques garçons, voilà. Ils sont en train de former l'étoile de David, et c'est un formidable moment d'espoir. Voilà. Au passage, il y a d'autres trucs, je n'avais pas prévu, mais après. Là, la statue de la Vierge, c'est assez rigolo parce que c'était une statue qui datait du 19e siècle, elle avait été installée en 1855. On l'a encore, cette première statue, on l'a encore dans l'église aujourd'hui. Donc c'était une Vierge à l'enfant. Et un curé de Beaulieu d'après-guerre a fait refaire la statue. Donc aujourd'hui, c'est une statue en bronze, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un enfant juif qui a donné un coup de ballon dans l'enfant Jésus qui a été complètement décapité. Donc voilà, on avait une Vierge sans Jésus. Et le curé, c'est une lettre de 1949, et le curé, il n'est pas sympa quand même, hein, parce qu'il laisse entendre que le petit garçon avait donné un coup de pied volontaire dans l'enfant Jésus. Quoi, voilà. Mais bon, ça me revient à l'instant, donc je vous le livre. Bon, quel bilan ? On peut dire quand même que les Juifs sont les oubliés de la mémoire de la Corrèze. Hein. C'est ce que Nathalie Roussary, elle utilise cette expression, donc je la reprends volontiers. David Marmonnier parle de lui de vide historique, hein, qu'on essaye modestement maintenant de combler un peu et progressivement, sans doute parce que ce passé, finalement, dérange les consciences. Voilà, hein, il faut bien dire les choses, et 80 ans après, on peut le dire. Bon, les chiffres restent sans doute provisoires et encore un peu imprécis, mais de ce point de vue-là, David Marmonnier a fourni un travail très intéressant, parce qu'il a établi une liste nominative, pas exhaustive sans doute, mais nominative des Juifs qui ont été déportés ou tués. Et voilà le chiffre auquel il arrive. Donc la liste nominative donc, fournie par David Marmonnier comporte 521 noms de Juifs qui ont été déportés et donc exterminés à partir de la Corrèze, auxquels il faut rajouter une trentaine de Juifs tués, souvent sur place, hein, voilà, fusillés, etc. Voilà. Alors, si on essaye de faire... je sais bien que là on parle de vie humaine et que de parfois vouloir donner des chiffres ou des pourcentages, mais ça donne quand même une idée. Bon. On sait qu'à l'échelle de la France, la proportion de Juifs qui ont été déportés et donc exterminés est à peu près de 25%, puisqu'on estime qu'en 1939, il y avait 300 000 Juifs en France, 75 000 ont été déportés, la très grande majorité a été malheureusement exterminée. Donc 25% en France. Pour ce qui est de la Corrèze, si on prend le chiffre de David Marmonnier, donc de 521 Juifs déportés, sur à peu près 3 à 4 maximum 1000 juifs qui étaient présents en Corrèze, on arrive à la proportion de 13 à 18%. Voilà. Qu'en dire ? Dire que ce chiffre il est inférieur à la proportion française, donc on peut quand même dire que la Corrèze a été une terre de sauvetage, ce qui n'enlève évidemment rien au parcours dramatique qu'ont subi ceux qui ont été déportés. Enfin, je termine en disant qu'il reste des travaux historiques à faire et qui sont évidemment nécessaires. Rien, presque rien sur l'aryanisation, sur l'année 1943 où il y a encore beaucoup de choses à travailler, sur un certain nombre de lieux qui restent sans mémoire, le château du Doubs. Il n'y a pas une plaque au château du Doubs, voilà. À Beaulieu, il va falloir faire quelque chose pour les étrangers inaptes dont on ne savait rien et dont on sait maintenant qu'il y en a une quarantaine qui ont été déportés. Au Saillant, ça a été fait, mais tardivement. À Buja, on ne dit toujours pas que ce sont des Juifs, etc. Et puis, globalement, il reste beaucoup à faire, notamment dans la région de Tulle et d'Ussel. Là, il y a très peu de travaux, particulièrement sur Ussel. On a peu d'informations. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis désolé de vous avoir tenu aussi longtemps, mais je me connais, je suis bavard. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, bien sûr, je suis évidemment preneur.
Une petite remarque sur la plaque de Raymond Farré, je crois pas que j'ai écrit qu'il est juif.
Non,
certainement
pas. Moi, j'ai appris.
Alors, il a été tué comme résistant, mais il se trouve qu'il était juif.
Il était officier.
Oui, c'est un militaire.
Hein,
c'est un militaire. Oui, lieutenant-colonel, je crois.
Lieutenant-colonel.
Il a vu l'opinion, c'est trop beau, j'imagine. Là, je ne vais pas remercier ça.